Chapitre 11, les autres dépendances.
Ou, qu'importe le flacon, pourvu qu'on l'ait livré.
Très bon, très bon. Détends-toi, les diabétiques aussi sont dépendants à une substance et personne ne les juge.
Bon, tu me rassures. J'avais peur que tu me mettes dans la case dépravation. Là aussi, la sécumède ?
Bon, ça dépend de la substance. S'il s'agit de l'insuline en injection utilisée comme traitement du diabète, alors tu peux être reconnu comme atteinte d'une affection longue durée, ALD, ce qui te permet de ne pas payer de ticket modérateur. Tu te rappelles, la part habituellement à la charge de l'assuré après le remboursement du soin par l'assurance maladie.
Absolument.
Tu as une liste de choses prises en charge, forfait de 18 euros appliqué aux actes lourds, dont le tarif est supérieur ou égal à 120 euros, et le matériel, le stylo injecteur, autopiqueur, lecteur de glycémie, pompe à insuline, mais dans une certaine mesure, genre un stylo injecteur par an, pas plus. Ouais. Cependant, méfie-toi, si tu te pointes dans une pharmacie avec une ordonnance trop vieille, le pharmacien ne te donnera pas d'insuline, car c'est un produit dangereux.
Ok. Et si c'est pas d'insuline, mais d'alcool dont j'ai besoin ?
Ah, je te vois venir. D'abord, alcoolique, poivreau, poche, pochetron, sous l'eau, sous l'art, tu vois, ou ivrogne, sont autant de termes qui maintiennent un caractère péjoratif. L'alcoolisme serait un péché, une tare, une faiblesse de la personne qui s'adonne à la boisson. Tu vois, un péché véniel. Tu vois. Ce stéréotype est tenace car, en dépit du fait que le médecin suédois Magnus Huss ait sorti l'alcoolodépendance du vice pour faire une maladie en 1849, ça veut dire un bail, hein, on a attendu 1978 pour que le syndrome soit classé dans le registre des maladies de l'OMS. Et aussi tragique que cela soit, si tu veux être pris dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, par exemple, un CHRS, il y a des chances que tu sois refusé si tu es dépendant de l'alcool. On te dirait pas ça pour l'insuline.
Mais par quoi je peux remplacer alcoolisme alors ?
Ah, il y a eu plusieurs tentatives pour décrire l'alcoolodépendance devant laquelle nous ne sommes pas tous égaux. Éthylisme a été proposé, œnolisme, qui rappelle plus le pinard, et aussi exogénose, mais c'est plus large, puisque ça veut dire intoxication par un corps étranger. Si à titre personnel, j'aime bien intoxication OH. OH, si tu as fait un peu de chimie, c'est la fonction alcool, un bout de molécule. Tu sais. Ici, la molécule incriminée dans les boissons alcoolisées, c'est l'éthanol, CH3CH2OH. Bon, je reviens à ta question. Si c'est ce que tu veux savoir, non, on ne délivre pas en pharmacie de doses d'alcool en cas de crise. Et bon, c'est pas... ça amène souvent les malades à trouver des chemins de traverse tous les plus humiliants les uns que les autres. Quand je parle de crise, il faut qu'on s'entende. Hein. Pour un buveur, ce qui pose problème, ce n'est pas la phase où il est pris d'alcool, mais justement la phase de manque. Les signes peuvent alors prendre des formes très diverses en fonction du stade et parfois entraîner le décès. Tu as donc plus intérêt à te rendre à l'hôpital qu'en pharmacie. Les médecins jugeront alors des traitements adaptés pour ta phase de crise et te proposeront de mettre en place tranquillement un sevrage en s'aidant de traitements généralement de la vitamine B1 et des benzodiazépines. Tu noteras d'ailleurs qu'on se fait des vannes depuis quelques heures en picolant, là, t'as vu ? Mais je sais pas si on a raison de trinquer autant. D'abord, pour la même raison que le tabac, la société prend en charge le prix des dégâts de l'intoxication OH. Ensuite, parce que si des gens essaient de se sevrer, nous, en tisant tout le long du bouquin, on fait que banaliser le truc. Je me demande si on ne devrait pas terminer à la limonade.
Ouais, mais il faudrait pas qu'on vienne des petits-enfants à la croix de bois non plus, Richard.
Il y a quand même une vaste gamme entre l'enfant à la croix de bois et le stade ultime de l'intoxication.
Bon, alors, on continue à jeun ?
Ouais, ça me va.
Okay.
D'autant que je comptais te faire le même bilan que le coût du tabac. Combien devrait coûter une canette pour compenser par les taxes les coûts de l'intoxication OH ?
Non, pitié, ne fais pas ça, je te crois sur parole.
T'as 8-6, ça coûterait bien.
J'ai une autre question à la con. J'ai la copine d'un copain, d'une copine, qui aimerait savoir... pour les problèmes de drogue illégale.
Sois pas gêné, entre nous. Je sais que la morale publique vient là aussi souvent jeter l'opprobre sur les usagers de drogue. Tox, drogué, camé, junkie. Il faut rappeler à ces gardiens de l'ordre que drogue, ça veut aussi dire médicament au départ. Et que c'est ce qui est prohibé à une époque et parfois accédé par une autre. C'est très culturel le problème de la drogue. Mais je te préviens, je ne rentrerai pas dans le débat moral sur l'intérêt qu'il y aurait à les rendre légales. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une hypocrisie à laisser légal et considérer comme convivial l'une des pires substances en termes de dépendance qui existe, l'alcool, puis à pénaliser les autres. Ensuite, le fait de pénaliser ce rapport aux drogues entraîne un marché parallèle, généralement, qui aggrave les problèmes sanitaires. C'est pour cela que je défends la création des CARUD. Tu connais CARUD, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Et puis aussi, la création des SCDMR, on dit les salles de consommation de drogue à moindre risque, aussi appelées les salles de shoot, dont on a parlé assez longuement ces 10 dernières années. Et cela, peu importe mon goût ou dégoût pour les dites drogues, si tu veux. Ces dispositifs de réduction des risques, ils minimisent la souffrance collective, alors je suis pour, si tu veux. Reste tout de même cette question. Toute personne a-t-elle le droit de disposer de son propre corps comme elle l'entend et de prendre les produits qu'elle souhaite ? Je suis enclin à penser que si la personne est consciente et informée, alors je ne vois pas de raison de l'en empêcher. C'est ce que certains philosophes comme Ruben Ogien appelaient l'éthique minimaliste. Il ne faut pas nuire consciemment aux autres, certes, mais vis-à-vis de nous-mêmes, nous n'avons pas de contrat moral. Pourtant, tu vois, Je dis ça, mais si ma gamine décrète un jour que la vie sous morphine est plus chouette que la vie normale, bah, ça va me faire un peu grincer des dents, quoi. Bon, tu vois, c'est vachement complexe comme débat.
Ouais, ouais. Je me mets à la place de mes potes junkies. Que dois-je faire ?
Bah, pour ta cam, il va falloir te débrouiller et tu vas être soumis au vent d'un marché sordide. La sécu, elle, ne prévoit que des thérapies de substitution. Ces médicaments de substitution doivent être prescrits par un médecin dans le cadre d'une consultation médicale. C'est un peu différent selon le produit cherché. Méthadone, suboxone, buprénorphine, subutex ou générique, tu vois. Le médecin est en droit de te délivrer sa prescription si tu as plus de 15 ans et te la faire délivrer en une seule fois pour éviter que tu aies à revenir tous les jours. Pour cela, il doit expressément inscrire la mention à délivrer en une seule fois sur l'ordonnance. Alors, en raison de sa nature et du moralisme ambiant, hein, et à l'inverse de la plupart des traitements longue durée, les traitements de substitution ne sont pas tacitement reconductibles. Dans le principe, le toubib ne renouvelle pas la prescription antérieure, il en établit une nouvelle. Obligation t'est donc faite de te présenter chaque mois à une nouvelle consultation médicale. Bah, ça fait un peu contrôle social, tu vois, ça. C'est contraignant, puis c'est vachement infantilisant. En théorie, un pharmacien ne peut pas te délivrer de suboxone sur présentation d'une prescription périmée, même si tu es sous substitution depuis des mois. En dehors de quelques refus imputables à une mauvaise volonté délibérée, il faut savoir que la marge de manœuvre des pharmaciens est hyper étroite. Hein. Okay. Les pouvoirs publics contrôlent minutieusement leurs actes concernant la délivrance et la gestion des produits de tableau B. Tableau B, c'est stupéfiant. Astreint au respect stricto sensu de la dérogation, il s'expose à de graves sanctions pénales s'ils y dérogent. Donc mon conseil, c'est le suivant. Prends le temps de bien vérifier avec ton médecin la rédaction de l'ordonnance. Plusieurs mentions doivent nécessairement y figurer pour éviter un certain nombre de tracasseries éventuelles en pharmacie, car la réglementation régissant la délivrance de ces médicaments et les contrôles auxquels ils sont soumis incitent parfois les pharmaciens à une prudence presque zélée, quoi. Donc veille bien à ce que le toubib stipule sur l'ordonnance le nom de la pharmacie de délivrance, à ce qu'il inscrive en haut la mention « à délivrer en une seule fois » si tu te sens capable de contrôler ta consommation, évidemment. Mmh. À défaut, le pharmacien devra refuser de délivrer la totalité de prescriptions mensuelles et te contraindre à revenir chaque semaine, retirer tes médicaments avec les sempiternels regards des approbateurs de la bonne société.
Okay. Et si en pharmacie, on refuse tout bonnement mes médocs, en invoquant je ne sais quelle clause de conscience ?
Ah, et ben, c'est compliqué. Les choses sont assez touffues sur ce point de vue-là. Hein. Un médecin peut effectivement refuser de te soigner.
Oui.
Un pharmacien peut refuser de te délivrer un traitement, mais il faut que cela se justifie et ne soit pas de la discrimination pure et simple.
Okay.
Sauf urgence vitale, un professionnel n'est pas tenu de pratiquer l'acte demandé, mais conformément aux dispositions du Code de la Santé publique, s'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir clairement le patient et lui donner tous les moyens et conseils pour qu'il puisse obtenir une prise en charge adaptée. Si un médecin peut refuser de prescrire pour raison personnelle, en aucun cas l'engagement philosophique ou religieux ne peut être mis en avant pour refuser de prescrire ou délivrer. La fameuse clause de conscience n'existe pas, en fait. Elle n'a absolument aucune valeur juridique. Par contre, il faut savoir que le refus de délivrance n'est ni un crime, ni un délit, mais une contravention comme celle commise par les automobilistes à l'encontre du code de la route. Donc le pharmacien, il peut être sanctionné si le refus n'est pas fondé. S'il refuse en disant « pas de ça chez nous » ou s'il te renvoie vers un de ses collègues sans te servir, relève son identité, déposte un courrier à l'ordre des pharmaciens en précisant que tu estimes avoir subi une discrimination.
Ouais, mais je n'ai pas l'adresse de cet ordre.
Ben enfin, t'es de la génération Y, toi, non ? T'es né avec le web dans les doigts, non ? Bon, bah, admettons que t'es pas accès à Internet. Alors voilà l'adresse, 4 avenue Ruysdael, R-U-Y-S-D-A-E, tréma L, 75-379, Paris, CEDEX 08. Je te redis, 4 avenue Ruysdael, 75-378, Paris, CEDEX 08. Et je te donne même un timbre, si tu veux. Tu veux un timbre ? Bon, je te donne un timbre. Et si le pharmacien te dit... juste qu'il est en rupture de stock, bah, tu vas en voir un autre. Mais vérifie quand même, une pharmacie qui plusieurs fois de suite est en rupture de produits de substitution, c'est plus que bizarre, si tu veux. C'est un peu... Soit le pharmacien il bosse mal, soit il t'enfarine. Dans quel cas, bah, t'écris à l'ordre.
J'ai entendu parler d'un docteur qui refuse de prescrire les substitutions.
Là, tu tombes dans une autre ornière du moralisme. Un toubib pensera souvent qu'il en sait plus que toi sur toi. Il décidera à ta place si ta substitution ou ton sevrage sont justifiés. C'est moche. Mon conseil, franchement, change de médecin. Et fouille le web, notamment les forums de l'association ASUD, A-S-U-D, qui fait un travail titanesque sur les usagers de drogue. Tu peux même joindre l'Observatoire du droit des usagers d'ASUD en cas d'atteinte de tes droits. Et si tu veux plus être soumis au dispositif de contrôle implicite comme le passage obligé chez les médecins une fois par mois, un seul moyen, payer intégralement tes traitements sans émettre la moindre demande de remboursement à ta caisse. T'as compris, c'est la solution pour les riches. Les pauvres, ils peuvent se brosser.
Ouais. Mais si je suis en garde à vue, j'ai le droit à mon traitement de substitution.
Bonne question. Et quadruple peine, car oui, l'usage de drogue est un marqueur social, sont souvent des gens assez modestes, si on accepte la cocaïne des catégories socio-professionnelles dites moyennes, et certaines drogues très prisées des milieux festifs. Pauvres et drogués, deux raisons de se retrouver face à la police, et éventuellement en zonzon. Alors là, il y a deux situations possibles. Soit tu as été arrêté avec tes médicaments, dans ce cas, tu dois prouver ta qualité de patient pris en charge par une ordonnance, ou en faisant... parvenir à, tu passes un coup de fil à ton centre, si on te laisse appeler, hein, de ton choix, tu appelles la personne de ton choix, et puis Si le commissariat te laisse appeler, bah, tu préviens le centre. Soit tu étais arrêté sans ton nom, tes médicaments. Dans ce cas, il faut savoir que dans le code de procédure pénale, la visite d'un médecin ne peut être refusée si tu la demandes. Article 63.3. Et est de toute façon obligatoire si tu as entre 13 et 16 ans. Okay. Dans tous les cas, demande, c'est ton droit. Au pire, si ça tarde, tu auras la visite d'un avocat, le tien ou un commis d'office. C'est prévu dans l'article d'après, 63.4. Et là, indique-lui ton statut de patient sous traitement substitutif.
Et en tôle, comment ça se passe?
Ben, depuis plus de 20 ans, c'était la loi de 18 janvier 1994, ce n'est plus l'administration pénitentiaire, mais le ministère de la Santé qui est responsable des soins en prison.
Okay.
Concrètement, ça signifie que dès le mandat de dépôt, c'est-à-dire quand on t'incarcère, tu es sous la responsabilité de l'hôpital du secteur. La circulaire du 8 décembre 1994 pose comme objectif, je cite, « d'assurer aux détenus une qualité et une continuité des soins équivalentes à celles offertes à l'ensemble de la population ». Les autorités médicales qui supervisent l'établissement dans lequel tu es enfermé sont habilitées à effectuer tous les actes médicaux liés au traitement de substitution. Initiation, relais, sevrage. Donc tu devrais obtenir ton traitement de, je sais pas si c'est la méthadone par exemple, de buprénorphine ou même de morphine. Ta prise en charge s'effectuera par le biais de l'unité de consultation et de soins ambulatoires, c'est l'UXA on dit, un service de médecine générale présent dans tous les établissements. Le CMPR aussi, service médico-psychologique régional dirigé par un médecin psychiatre, ou peut-être même par le XAPA, le centre de soins d'accueil et prévention en addictologie ouvert en milieu pénitentiaire. Dans tous les cas, tu dois bénéficier du secret médical lors de la délivrance de ton traitement. Alors attention, par exemple, à la délivrance à l'infirmerie ou équivalent, qui fait immédiatement repérer les personnes en traitement et génère leur stigmatisation. Si on te refuse, tu peux écrire une lettre officielle de protestation au chef de service de l'UXA ou au directeur de XAPA, si tu penses que c'est légitime de le faire, avec copie à ton défenseur. Okay. Le courrier destiné à l'avocat n'est pas censuré, lui. Si cela reste sans suite, bah adresse-toi comme à l'extérieur des prisons, au médecin inspecteur de l'Agence régionale de santé, l'ARS, puis à l'administration du ministère de la Santé, puis à l'équipe du ministre de la Santé, toujours avec copie à son défenseur. Ça foutra un peu le bazar, quoi.
Ok. Donc, là, on a abordé le problème des pauvres, des femmes, des toxicos. Qu'y a-t-il de plus vulnérable qu'une pauvre femme tox?
Eh ben, je dirais une pauvre femme tox prostituée. Ouais. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début de notre discussion? Les travailleuses et travailleurs du sexe ils payent leurs impôts, mais ils n'ont pas de couverture.
Ouais.
Et je précise bien travailleurs aussi, car on estime à peu près 15% de travail du sexe fait par des hommes. Mais pour ce paragraphe, je vais m'adresser aux filles qui sont majoritaires quand même. Donc soit tu es employé par quelqu'un, auquel cas ce dernier risque gros, puisqu'il entre dans le cadre de la définition du proxénétisme, générer des profits sur l'activité de prostitution d'autrui, grâce à l'ascendant que l'on exerce dessus, c'est ça le proxénétisme. Soit tu n'as pas de Mac, de macro comme on dit, qui sont souvent des hommes, et tu optes pour le statut de travailleuse indépendante. Les caisses de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peuvent pas refuser ton affiliation puisque la prostitution n'est pas punissable en soi. C'est le racolage et l'achat des services sexuels qui sont punis. Le régime des travailleurs indépendants ne t'accorde en revanche aucune protection en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, de chômage et ne prévoit pas le paiement d'indemnité pendant les congés annuels. La jurisprudence, dans sa grande majorité, considère comme salariés les serveuses et entraîneuses de bar qui se prostituent. Elles sont toutefois rarement déclarées comme salariées par leur employeur, souvent un homme. La répression du proxénétisme en constituant le principal obstacle. Pourtant, tu dois déclarer tes revenus professionnels comme toute autre travailleuse indépendante. En gros, tu raques tes impôts, tu t'acquittes de tes cotises et tes prestations sociales sont ultra nulles. C'est pourri comme statut, c'est vraiment pourri.
Ouais, mais il n'y a personne pour aider un peu?
Si, il y a un syndicat qui s'appelle le STRAS, pour syndicat du travail sexuel, qui existe depuis 2009 en France, métropolitaine, hein, dans les bonnes pommes, en vrai, je sais pas. Et le STRAS, il t'aidera un peu. Un certain nombre d'antennes ou de relais sont en région, farfouillent et si tu parles pas français, tu trouveras certaines de leurs documentations qui sont traduites dans quelques langues. En tout cas, autant je suis partagé sur la question de l'abolition ou non de la prostitution, autant je suis pour que tant qu'il y a des personnes qui vivent de ça, on leur offre une protection sociale indexée à leur vulnérabilité. Et tu te doutes bien que c'est pour la majorité un travail assez risqué, tu peux y laisser ta peau, vu la légion d'hommes machistes qui composent la majorité des clients de la prostitution.
C'est clair. Je poursuis sur cette ligne. On devrait juger notre protection sociale à l'aune de la façon dont on protège la prostituée noire, mineure, sans papier, unijambiste, borgne, trans, tox, qui se fait cogner par son Mac. Mmh. D'ailleurs, s'il y a violence, il y a coup. S'il y a coup, il y a parfois décès.
Ouais, et les coups semblent être largement portés par des hommes sur des femmes. Bon, même si les chiffres sont parcellaires, puisque beaucoup de coups ne sont pas traités par la justice ou même, ni même recensés. Quoi. Et pas besoin d'être à la rue pour se faire taper dessus. Hein. L'essentiel se passe dans le giron conjugal. Il y en a qui meurent chaque année. En 2014, 135 femmes ont perdu la vie sous les nions de leur conjoint ou ex-conjoint.
C'est donc la fin de la protection sociale?
Ah, inexact. Et tu vas voir, ça pose un tas de questions, la fin de vie. Chapitre 12, à venir sur la fin de vie.